Je suis à l'hôtel Métropole sur le bord du lac Léman avec Julie Gilbert et Frédéric Chauffat. Bonjour.
Bonjour.
Je viens de voir votre actrice Anna Blaglis pour My Little One qui a droit à l'avant-première ce soir au cinéma Scala à Genève. C'est vendu, archi complet. C'est donc un endroit où vous nous emmenez dans une sorte de quête existentielle initiatique dans le désert de l'Arizona, en terre Navajo. Comment est né ce projet et comment est née surtout cette image un petit peu évanescente au départ de Jade, donc interprétée par Anna Blaglis.
Julie.
Alors le point de départ de ce film, c'est qu'en fait, avec notre précédent film Mangrove, on avait reçu qui était à Locarno et qui était tourné au Mexique, on a reçu en fait un prix à Los Angeles, à la Paramount. On connaissait bien les États-Unis, mais Est, et on n'était jamais allé de ce côté-là. Et donc on est allé pour cette raison-là. Et on a voyagé en fait pour la première fois dans ces territoires de désert, et on a été complètement fascinés par la rencontre avec le désert, et notamment la rencontre avec le territoire Navajo, puisque donc le territoire Navajo, c'est la plus grande réserve amérindienne qui a été rendue, enfin le territoire qui a été rendu à des Amérindiens. Donc ça, c'est la naissance du projet. Et puis en fait, on avait aussi en tête l'envie de poursuivre en fait une réflexion qu'on avait déjà dans nos précédents films, qui est cette quête de l'étranger qui fait un voyage vers l'ailleurs et qui en fait fait un voyage à l'intérieur de lui-même.
Frédéric.
Est-ce que je peux tousser juste avant?
Oui, alors on va faire Julie.
Excusez-moi.
C'est l'émotion.
Ouais,
exactement.
Ça doit être ça.
Ou c'est peut-être la poussière du désert.
C'est la poussière du désert, il y a beaucoup de poussière, c'était très beau.
Et à propos du désert, c'est un protagoniste à part entière.
Oui, vraiment. C'est un paysage, c'est un protagoniste, c'est le porteur des habitants qui s'y trouvent. Et c'est notre regard très subjectif sur ce lieu, en fait. Ouais. Il a imprégné nos rêves, il a imprégné notre film.
Et puis aussi, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ce que racontent les paysages. Et en l'occurrence, le désert, c'est une vaste étendue. On voit les gens arriver de loin et on ne peut pas se cacher. Donc l'histoire, elle raconte ça, en fait. Des personnages qui sont obligés de se dévoiler, d'aller au bout d'eux-mêmes et ne peuvent plus se cacher derrière des faux-semblants, des illusions qu'ils auraient d'eux-mêmes. En fait, progressivement, ils vont devoir vraiment se dépouiller de tout ce qu'ils ont été pour
se mettre à nu.
Mettre à nu.
Et par rapport au choix des comédiens, est-ce que c'était déjà au niveau de l'écriture ou c'est devenu ultérieurement?
Alors c'est un long processus. Vincent Benigno, donc comédien suisse avec lequel on avait déjà travaillé pour La Vraie Vie d'ailleurs, lui était déjà à l'écriture. On a vraiment écrit en pensant à lui. Après, les autres personnages sont venus après coup. On cherchait une femme solaire, rock'n'roll en même temps, belle, plus toute jeune, enfin, c'est-à-dire pas 20 ans, pas une jeune Lolita, mais vraiment quelqu'un qui a vécu et qui puisse interpréter ce personnage sans devoir se coller un peu de poussière dans les cheveux pour faire semblant d'être perdu au milieu du désert, mais voilà. Et finalement, on a découvert Anna, dont l'histoire n'est pas du tout celle du film, mais dont le caractère, dont la pugnacité, le rayonnement, le côté rock'n'roll, lui appartient totalement. Pour nous, c'était beau de la transformer, ou en tout cas de lui faire prendre ce personnage et de traverser le désert avec elle. Voilà. Ensuite, Mathieu Demy, c'est un personnage qu'on connaît, qu'on a rencontré en vivant à Los Angeles, qu'on connaît à travers ses films en tant que réalisateur, comédien, qu'on connaît par ses parents, Jacques Demy, Agnès Varda. Et pour nous, voilà, c'était une grande chance aussi de travailler avec quelqu'un qui porte aussi une histoire du cinéma en lui-même et beaucoup de talent.
Et la jeune qui interprète Frida, allusion à Frida Kahlo, bien sûr, of course. Voilà. C'est Ruby Matenko.
Oui. Elle, c'était aussi une grande découverte. On a travaillé avec des agents de casting américains à Los Angeles qui nous ont fait une proposition, qui ont lancé leur réseau sur tous les États-Unis pour trouver, sur la base d'une scène qu'on avait écrite, la comédienne idéale. Donc on a vu des dizaines et des dizaines de vidéos. Et là-dessus, on a fait un premier tri, un premier choix. Et puis on en a rencontré plusieurs, on a fait des essais et Ruby est vraiment sortie du lot parce que c'est une petite fille de 10 ans, mais hyper professionnelle, hyper précise, hyper espiègle. Et en tout cas, qui a incarné ce personnage. Elle n'était pas elle, par contre, du tout dans la réalité, mais pour le jeu, elle s'est transformée. C'est un vrai plaisir.
Elle avait déjà de l'expérience au cinéma?
C'était son premier long métrage de fiction. Elle avait de l'expérience, elle avait quelques petites apparitions dans Transparent, série américaine. Et comme ces jeunes acteurs américains, elle avait eu des coachs, elle avait eu des cours, elle était déjà un peu baignée dans ce milieu-là. Mais c'était la première fois qu'elle se retrouvait cinq semaines loin de tout sur un tournage en plein désert.
Et comment vous avez travaillé avec elle? Parce que, comme vous mentionnez, un des comédiens, vous aviez déjà travaillé avec lui. c'était peut-être plus facile pour des comédiens adultes. On dit toujours que diriger un enfant, c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais chacun vient de toute façon avec ce qu'il est, adulte ou enfant. Et je crois qu'il n'y avait pas de différence par le fait qu'elle était un enfant. Elle, était aussi, elle savait le texte, le scénario, partie française et anglaise, même si elle est anglophone pratiquement par cœur. Et puis, on a vraiment pu... Voilà, il y avait des contraintes de travailler avec un enfant en termes d'heures, en termes de qu'elle puisse faire l'école quand elle n'avait pas les prises. Donc on devait alterner et respecter des horaires de syndicat très stricts américains. Mais à part ça, le travail était vraiment d'égal avec les autres comédiens, il n'y avait pas d'hierarchie. Alors Julie préparait plus un peu le travail avec elle en amont, pour que moi je me concentre sur les trois autres. Et puis après, tu revenais, comme tu as fait aussi pour les non-acteurs Navarro.
Voilà, Navarro, c'était ma question suivante.
Voilà, parfois il fallait prendre plus de temps, travailler le dialogue, l'adapter aussi un peu à la réalité.
Et c'est vrai qu'on a travaillé les scènes en amont, parce qu'on avait quand même peu de temps au moment du tournage, dans le sens aussi où il y avait souvent les scènes étaient complexes, on est dans le désert, il y a les tempêtes de sable, il fait chaud, il fait froid, etc. La lumière change. Et c'est vrai que, et avec Ruby et avec les non-comédiens, c'est vrai qu'on prenait du temps en amont, on retravaillait l'enjeu des scènes, mais tous finalement ils ont été quand même d'une grande pugnacité au moment du tournage, c'était assez impressionnant.
Dans des conditions assez dures, parce qu'il y avait du vent, il faisait très froid le matin, voire la nuit, très chaud la journée, et puis un vent, on était toujours avec des lunettes de ski pour pas avoir du sable dans les yeux.
À quelle saison ?
On était en septembre, octobre, préparation septembre, tournage octobre, début novembre.
Et à propos, je rebondis sur ce que vous dites, il y a une importance de la lumière, vous avez travaillé la photographie de manière spécifique.
Oui, forcément, il y a un cadre cinémascope qui n'était pas obligé, mais qui donne envie par rapport au paysage et par rapport à mon envie de cadrer ça de cette manière-là. On a travaillé avec Pietro Zurcher pour la lumière, qui a fait avec une petite équipe américaine très efficace, une mini-armée comme ça, très rapide et très talentueuse. Et puis voilà, puis après, c'est travailler justement cette surexposition, cette impression d'un soleil qui écrase, comme le vent balaye, et voilà, c'est encore une fois, je vais parler du désert dans lequel on se met à nu, et bien comment ce désert il peut être le plus aride, le plus difficile possible pour que les personnages sortent au-delà de leur peau, se découvrent complètement.
On retrouve des thématiques qui vous sont chères, qu'on avait déjà vues dans votre précédent film, un petit peu l'évanescence des êtres humains, peut-être le côté éphémère de la vie humaine par rapport à l'immensité de la nature, c'est quelque chose qui anime votre création.
Oui, je pense que toujours nos histoires sont autant racontées par la nature que par les personnages eux-mêmes. C'est pas un huis clos où t'as trois personnes qui parlent ensemble. C'est vraiment le paysage parle avec eux aussi et ils sont qu'une partie infime du monde qui nous entoure. Donc c'est vrai qu'on a uni le paysage avec nos comédiens européens et américains pour Ruby, les non-acteurs ou jeunes Navarro. Acteurs Navarro, et puis les esprits, le monde des esprits qui étaient aussi présents et dans l'histoire et dans la réalité de tous les jours.
Et par rapport à la musique, Anna m'a dit qu'elle vous avait suggéré
de travailler avec Yann Péchin.
Voilà.
C'est exactement. On avait envie qu'elle reprenne une chanson, El Desierto, de La Sala de Cela. Et on discutait avec elle, les différentes adaptations possibles. Et elle a dit, ah, mais j'ai travaillé une fois avec un guitariste incroyable, qui est Yann Péchin, qui était le guitariste légendaire de Bachung, mais aussi de Higelin, Tiefen, etc. Et c'est vrai que ça a été une très, très, très belle rencontre. On s'est tout de suite entendu et voilà, on a fait des essais pour le chant de Anna avant de partir, parce qu'il fallait avoir déjà cet enregistrement avec nous. Et puis ensuite, un travail sur la musique originale qui s'est fait conjointement avec lui pour toutes les parties plus rock et guitare, et avec un duo de musique électro-acoustique, avec un duo qui s'appelle Christophe Carole, qui se trouve dans le sud de la France, avec qui on a fait tout un travail sonore, bruit, musical, sur le reste du film.
Donc vous avez émis vos souhaits au niveau de la musique ?
Oui, toujours. C'est toujours très guidé. Ça y a une proposition, il y a une demande de tel endroit, même un minutage, en disant là j'ai besoin de 15 secondes, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis eux proposent quelque chose, on écoute les deux, on revient et on travaille ensemble.
Et bon, on sait que vous êtes un couple à la ville, vous avez fait déjà plusieurs films ensemble. Comment ça se passe, vos quatre mains ? Est-ce que Julie est plus à l'écriture, puisqu'elle est aussi en fait dans le théâtre, le monde du théâtre ? Ou est-ce que c'est vraiment une sorte de... partition à quatre mains, totalement équilibrée.
C'est les deux. C'est-à-dire qu'on pense complètement le projet, le film ensemble. Donc c'est vrai qu'après, je vais être plus dédiée à l'écriture. En l'occurrence, pour ce film, on a aussi fait appel à Jian Schwaib, qui est scénariste. Donc on a vraiment écrit les trois. Et on va dire que j'étais plus responsable, on va dire, de toute cette dimension d'écriture. Et ensuite, Frédéric était vraiment plus responsable de tout ce qui est la réalisation. Il est véritablement le réalisateur du film dans ce sens-là. Mais on a, en fait, on a une vision globale, c'est-à-dire on va parler du casting, on va parler des enjeux, on va parler des choix de location, de lieu, etc. ensemble. Donc en fait, c'est pour ça qu'on signe aussi nos films ensemble. Mais en même temps, nos rôles, ils sont assez séparés.
C'est une symbiose.
Ouais, on peut dire ça.
On essaie de symbiose à chaque fois, ouais. Voilà, de renouveler, de réessayer. Ouais. À chaque fois, c'est une partition un petit peu différente qui se passe. Mm. Et c'est en effet, chaque fois, retrouver un autre équilibre qui convient au projet.
Mm. Alors, vous étiez parti au Mexique. Là, c'était le désert d'Arizona, territoire Navarro. Est-ce que c'est vivifiant? Est-ce que c'est stimulant de tourner à l'étranger?
C'est indispensable parfois, c'est-à-dire qu'on a toujours un regard différent quand on va ailleurs, on est lavé de nos habitudes, de ce qu'on pense être. Je pense qu'un étranger qui viendrait filmer Genève le filmerait mieux que nous, par exemple, parce qu'il a un regard différent. Tout comme nous, on pourrait peut-être le guider, c'est ce qu'on cherche à chaque fois, c'est d'être ailleurs, mais de trouver des gens sur place qui nous introduisent dans des recoins cachés, qui nous permettent d'accéder justement à autre chose qu'une surface d'un touriste qui passerait là une semaine ou trois jours. Mais c'est sûr que d'aller plus loin, c'est aussi se dépasser, c'est sortir de nos limites, c'est sortir de nos frontières, et ça c'est, je crois, à travers tout notre travail, quelque chose d'indispensable.
C'est notre travail, mais c'est aussi notre vie, c'est aussi notre façon de vivre. Finalement, Genève est notre port d'attache, la Suisse est notre port d'attache, mais et l'un et l'autre, finalement, on a grandi au Maroc, au Mexique, ensuite on a énormément vécu à l'étranger, à Cuba, aux États-Unis, au Canada, et en fait, on est vraiment, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce d'aller-retour, cette confrontation toujours entre l'ici et l'ailleurs, et on a l'impression que si on fait nos films à l'étranger, c'est pas juste parce que c'est exotique et que c'est joli, mais en fait, c'est que ça raconte cette question de l'identité, de l'exil permanent intérieur-extérieur, et c'est ça qui nous anime en fait. Et c'est vrai qu'on dit toujours que nos films ressemblent à nos vies, c'est étroitement
liés. Ils sont beaucoup plus nourris en effet de ce qu'on a vécu que de références littéraires ou cinématographiques. C'est vraiment ces rencontres-là qui vont nourrir des dialogues, qui vont nourrir des envies, des fantasmes parfois, mais voilà, c'est souvent à travers les choses vécues.
C'est justement un message très fort que peuvent transmettre les artistes, hein, comme vous, à l'heure où justement le populisme prend de plus en plus d'ampleur.
Alors pour nous c'est indispensable, bien sûr, c'est une ouverture permanente. On vit au Paquis, et je crois que c'est le seul quartier où je me sens vraiment à l'aise parce qu'il y a un mélange de cultures permanent, les enfants grandissent dans un mélange complètement indistinct de qui vient de où, qui est qui, et tout ça a tellement peu d'importance dans le monde où on vit aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut parler projet? Ou c'est prématuré? Vous êtes déjà à l'écriture?
Alors, oui, mais de d'autres projets. Je lis plus du côté du théâtre et de littérature.
Moi, j'ai un spectacle en ce moment qui s'appelle « Je ne suis pas la fille de Nina Simone », c'est la deuxième année, là, il est repris à Lausanne pour la suite. Et puis toi, Frédéric, t'es
et
parti,
moi, je suis sur un documentaire, voilà, mais qui est encore tout frais.
Gestationnel.
Dans le début. Voilà.
Mmh. Ouais. Et par rapport, vous étiez à Soleure. Est-ce que My Little One a déjà d'autres sollicitations? Est-ce que, en dehors de la sortie, bien sûr, sur les écrans?
Oui, mais on a un vendeur international qui est en train de le vendre, donc on attend un peu les résultats, de voir comment ça se passe. Tout le monde est aussi très attentif de voir comment ça va se passer, la sortie ici, pour voir. Et nous, les premiers, à Soleure, on l'a présenté deux fois devant une salle comble de 500 personnes, et on était nous-mêmes surpris de voir que le public réagissait différemment qu'on avait pensé, en bien, c'est-à-dire rigoler à chaque geste, il y avait une sorte de magnétisme qui était fabuleux à découvrir, et ça c'est tout est à venir maintenant. Donc, c'est vrai que c'est ce soir lors de la première.
Ce soir c'est
où on va
salle
se dire
comble.
Voilà, et comment quels vont, il y a les premiers échos de la presse qui sont très chouettes, qui sont très agréables à lire. Donc tout ça voilà, c'est aussi l'aboutissement de 5 ans de travail, c'est le moment moi que j'aime, c'est bon, chaque étape je les aime avec leur lot de difficultés ou de passion, mais c'est là aussi on fait des films pour qu'ils soient vus, pour que les gens les voient, pour en parler, pour que ça ouvre sur d'autres horizons, d'autres dialogues et d'autres envies à venir.
Et puis vous avez des réalisateurs qui vous ont nourri, parce qu'on en parlait justement avec nos journalistes, quand on voit votre film, on a des clins d'œil un peu à Jarmusch ou à même certains Kusturica ou Wenders. J'imagine que ces gens-là vous ont nourri aussi dans votre création?
De toute façon, en fait, c'est notamment par rapport à un film qui est tourné aux États-Unis, en fait, c'est comme si on ne peut pas ne pas avoir de référence. En fait, on est quand même tous transfusés à ces espèces d'images de western, à ces images incroyables du désert. Alors, c'est vrai que Paris, Texas était une référence, en tout cas, à l'écriture très, très forte. Après, tout le but du processus a été aussi de se dire, bon, bah, nous, quel va être notre désert, quel va être notre regard. Et c'était aussi ça, tout d'un coup, cette décision aussi de tourner en territoire navarro. C'est comme, c'est tourner dans un territoire où c'est d'autres lois, d'autres codes, d'autres représentations, d'autres mythologies. Et c'est comme regarder aussi ce territoire américain depuis un autre endroit. Donc voilà, mais après, forcément, le mobilhome, Jade dans son mobilhome, bah voilà, c'est des clins d'œil à d'autres personnages.
Quoi. Mais au-delà du désert, c'est vrai que les références au cinéma indépendant, comme Jarmusch aux États-Unis, sont aussi une manière de voir le monde qui sort un petit peu des sentiers battus et quelque chose qu'on recherche forcément Jarmusch, aussi, de toute façon. Quoi.
Et la culture navarro, vous connaissiez bien avant d'y tourner ?
Avant d'y tourner, oui, parce que ça a été notre terrain de recherche, de documentation, donc pas avant ce projet, mais ce projet nous a amené là-bas. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, comme de
bosser
sur les projets documentaires, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller rencontrer des gens, c'est de vivre avec ces personnes, c'est d'essayer d'amasser, de glaner le maximum d'informations, de sensations, d'échanges, pour ensuite les oublier, mais que les personnes qui connaissent puissent reconnaître. Il y a des tas de codes dont on n'a pas du tout besoin de les expliciter, c'est pas un documentaire, mais on avait envie, on va aller le présenter là-bas prochainement, en territoire navarro, et on a envie que les gens soient fiers, qu'ils s'y retrouvent aussi et qu'ils n'aient pas l'impression d'être bafoués comme ils l'ont été à chaque étape de leur longue histoire. À chaque fois, on leur a mis des plumes, on les a transportés, on les a exterminés, on les a déplacés. Et de se dire, bah voilà, c'était. Et eux l'ont senti comme ça. Il y a beaucoup d'attentes, ils nous envoient des messages, ils veulent savoir chaque projection, savoir comment ça s'est passé. Donc le lien se continue parce qu'il y a une sorte d'exotisme dans l'autre sens, de savoir qu'il y a des Suisses qui sont venus les filmer là-bas et ils ont hâte, on leur envoie des bouts de film, ils ont hâte de voir le film en entier. Et c'est un peu notre retour qu'on souhaite faire assez rapidement, un peu en cadeau, de retour du cadeau qu'ils nous ont fait en nous accueillant très 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 bien.
Et contrairement à Trump, pour ne pas le citer, ils ne confondent pas la Suisse avec la Suède.
Je pense que même pas où c'est, donc la question se pose pas.
Ils sont beaucoup plus cultivés, monsieur Trump.
C'est pas difficile.
C'est pas difficile. Non, mais en fait, ils savaient assez bien où c'était la Suisse.
Et puis eux, ils communiquent par message fumé comme ça et pas en tweet, peut-être.
Peut-être, c'est plus fiable.
Voilà. Un dernier mot, Julie Frick, par rapport au cinéma suisse. Deux grands noms viennent de nous quitter, Goretta, bien sûr, et Bruno Ganz.
Bah, Bruno Ganz, moi, j'avais vraiment un rêve, c'était qu'on tourne un jour avec lui. C'est dans la ville blanche, c'est vraiment... C'est le début de l'amour pour moi du cinéma suisse. Et Claude Goretta, j'avais moins d'affinité, on va dire, esthétique. Moi, il ne m'a pas marqué spécifiquement, mais c'est vrai que Bruno Ganz, ouais, grande tristesse.
Frédéric.
Pareil pour moi.
Bah, c'est vraiment la symbiose, c'est presque de l'osmose. Merci à parfait, tous les deux et bon succès ce soir devant cette salle comble au Scala.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Ben, merci.
Super. Voilà. Et ouais, on part en courant.